Le médecin des pauvres, deuxième partie, chapitre 9, le logis des femmes. On n'a pas oublié, nous l'espérons du moins, qu'après avoir laissé dans la cour de la citerne le chariot de foin tout chargé qu'il avait amené, Garbas s'était éloigné avec ses bœufs en répétant de sa voix la plus sonore « Sur les blés verts l'alouette, en volant chante, aimons-nous. Dans les taillis la fauvette s'envole à son rendez-vous. Nous aussi comme l'hirondelle, comme aussi la tourterelle, nous nous aimerons, ma belle. » Puis, tandis qu'il descendait la rampe qui le conduisait dans la vallée, sa voix et sa chanson s'étaient affaiblies peu à peu et avaient fini par s'éteindre complètement. Retournons, s'il vous plaît, dans la cour de la citerne, que tous les valets du château avaient quitté les uns après les autres pour aller souper et se mettre au lit, et dans laquelle régnait maintenant le plus profond silence et la plus complète obscurité. 2 heures à peu près s'écoulèrent sans qu'aucun mouvement eût lieu, sans qu'un seul bruit se fît entendre. Puis, ce qui se passe dans une prairie lorsqu'une taupe arrive à l'extrémité de la galerie souterraine qu'elle se creuse et dont l'issue vient aboutir à la surface du sol, eut lieu sur le chariot de foin. L'herbe desséchée s'agita doucement d'abord. Un renflement se produisit. Une tête se montra, 2 épaules lui succédèrent. Et enfin, un homme, après s'être assuré que nul regard indiscret ne pouvait l'entendre, sortit tout entier de la couche de foin dans laquelle il était resté enseveli jusqu'à ce moment. Cet homme demeura pendant quelques secondes immobile au sommet de la voiture, et se laissant ensuite glisser sur le sol, il détendit ses membres afin de leur rendre l'élasticité qu'une immobilité trop prolongée leur avait fait perdre. Nos lecteurs ont deviné depuis longtemps déjà que tel avait été le hardi moyen employé par l'accusant pour s'introduire dans le château de l'Aigle. 3 points lumineux scintillaient faiblement dans les ténèbres, sur les vêtements sombres du capitaine. C'était d'abord l'églantine en diamant du médaillon qu'il portait suspendu à son cou par une chaînette d'acier et qu'il n'avait pas quitté depuis le moment où ce médaillon lui avait été remis par Pierre Prost dans le cachot de l'abbaye de Saint-Claude. C'était en outre les crosses des pistolets passées dans sa ceinture. 2 des fenêtres du salon dans lequel se trouvait en ce moment le seigneur de l'Aigle prenait jour, nous l'avons dit, sur la cour de la citerne. Le capitaine fut étonné dans le premier moment de voir ses fenêtres éclairées, et il se demanda si la prudence ne lui commandait pas impérieusement d'attendre pour agir quand Tite de Montaigu fut couché et endormi. Mais la veillée du gentilhomme pouvait se prolonger longtemps encore. Il était 10 heures à peine, et l'accusant se décida à commencer ses recherches sur le champ. Les relations suivies du chef des partisans montagnards avec le comte de Montaigu l'avaient amené souvent au château de l'Aigle, dont il connaissait les principales dispositions intérieures. Il était convaincu, et non sans raison, que le bâtiment des femmes devait servir de prison à Églantine, et s'orientant de son mieux, après avoir laissé à ses regards le temps de s'habituer à l'obscurité, il se dirigea vers cette petite porte en mauvais état dont nous avons parlé lorsque nous sommes entrés dans quelques détails relativement aux diverses constructions du vieux manoir. Il trouva cette porte sans trop de peine, et s'étant assuré que les planches qui la formaient étaient notablement vermoulues, il tira son poignard et s'efforça de disjoindre sans bruit les panneaux chancelants de façon à se ménager un passage. Tout alla bien d'abord. La surface de la porte, moisie par le temps et vermiculée par les travaux d'une foule d'insectes rongeurs, se détachait en large éclat sous la pointe acérée du poignard. Mais quand l'acier atteignit le cœur du bois, les difficultés du travail augmentèrent et devinrent telles peu à peu que le capitaine dut s'avouer avec un découragement profond que la nuit entière s'écoulerait dans un labeur obstiné sans amener un résultat suffisant. Quant à démonter la serrure, il n'y fallait point penser. Cette serrure se trouvait à l'intérieur, et de plus, sans doute, de solides verrous mordaient la pierre. Désespéré de ce contretemps, le capitaine se recula de quelques pas, et d'un long regard, il interrogea la morne façade, cherchant si quelque issue pouvait lui permettre de tenter une escalade, avec une chance de réussite. Mais nous savons déjà que les derrières seules du bâtiment des femmes dominaient la cour de la citerne. L'accusant ne vit que des ouvertures étroites, placées à une grande hauteur, et d'ailleurs défendues par de lourds barreaux de fer en forme de croix. « Mon Dieu » murmura-t-il en se frappant le front comme pour en faire jaillir une idée. « Aurais-je donc vainement affronté l'antre du tigre ? Ne pourrais-je pas même arriver jusqu'à cet enfant que je voudrais délivrer au prix de ma vie ?» Et il se mit à côtoyer à pas lents les murailles dans lesquelles la cour était enfermée, demandant à la disposition des lieux une inspiration qu'il ne trouvait pas en lui-même. Tout à coup, ses pieds heurtèrent la première marche du petit escalier conduisant à la terrasse. « Ah ! » s'écria-t-il presque à haute voix. « J'avais oublié. Je suis donc fou !» Et il franchit rapidement les degrés. En haut de l'escalier et au niveau même de la terrasse, une grille lui barra le chemin. Cette grille était fermée, mais la clé se trouvait à la serrure. Et pour l'ouvrir, l'accusant n'eut qu'à passer son bras entre les barreaux. Les gonds rouillés grincèrent lamentablement et produisirent un bruit à peu près pareil au cri lugubre de leurs frais. Peut-être ce bruit inattendu, retentissant tout à coup dans le silence, allait-il faire surgir autour du capitaine des ennemis armés? Il mit la main sur l'écrosse de ses pistolets et il attendit. Personne ne parut. Au bout de quelques secondes, il s'engagea sur la terrasse avec une prudente lenteur, car il courait le risque de se heurter à chaque pas contre les troncs des arbres qu'il ne distinguait que vaguement dans les ténèbres. Et il atteignit sans encombre la seconde grille. Elle était ouverte tout au large. Le capitaine la franchit en remerciant Dieu de la négligence des valets, et il se trouva dans l'espace compris entre le logis seigneurial et le bâtiment des femmes. Une des fenêtres du premier étage de ce bâtiment était ouverte. Malgré la rigueur du froid, et par cette fenêtre, on voyait à l'intérieur une lueur faible et vacillante. « C'est là qu'elle est sans doute, » pensa l'accusant. « C'est là qu'elle attend son libérateur. » Rempli d'ardeur et d'espérance par cette pensée, il se dirigea vers la porte principale, en se disant que peut-être on se serait contenté de la fermer depuis le dehors, sans en emporter la clé. Si la clé manquait, le capitaine était décidé à attirer l'attention d'Églantine en murmurant sous la fenêtre un de ses refrains montagnards qu'elle connaissait bien et qu'elle aimait à répéter. Ce fut avec une émotion et un trouble profond qu'il découvrit en s'avançant que la première porte était ouverte. En haut de l'escalier qui se trouvait en face, se voyait cette même lueur faible et tremblante aperçue depuis le dehors. La porte de la chambre du premier étage était ouverte également. « Que veut dire ceci ? » pensa l'accusant. « Ce n'est pas de cette façon que le seigneur de l'aigle doit garder ses prisonniers. Églantine n'est-elle donc point dans ce bâtiment ? Ou bien serais-je arrivé trop tard ?» L'idée que la vieille Maggie avait pu le tromper, ou se tromper elle-même, ne se présenta pas à son esprit. À tout prendre, il était possible que la jeune fille se trouvât dans quelques pièces reculées du logis des femmes. Peut-être même la chambre ouverte et éclairée du haut de l'escalier était-elle occupée par ses gardiens ? Ces différentes hypothèses lui paraissaient sinon vraisemblables, du moins admissibles. Il voulut savoir le plus tôt possible à quoi s'en tenir, et retenant sa respiration, étouffant le bruit de ses pas, saisissant de la main gauche la poignée de son épée afin de l'empêcher de se heurter contre la muraille, s'appuyant de la main droite à la rampe de fer, il se mit à monter les degrés de l'escalier, s'arrêtant à chaque marche et prêtant l'oreille afin de pouvoir se mettre en défense au moindre bruit et éviter au moins une surprise. Le silence restait profond. On eût dit que le bâtiment était désert. À mesure que l'accusant montait, la lueur se faisait plus vive et se projetait comme un cercle lumineux sur les hautes marches de l'escalier. Le jeune homme entra dans cette zone éclairée. Là, il s'arrêta de nouveau. Autour de lui, même calme, même immobilité. Il reprit sa marche. Il atteignit le palier qui se trouvait de plein pied avec la porte. Il appuya son épaule contre l'un des montants de cette porte et, avec des mouvements d'une lenteur calculée, il avança la tête, de façon à jeter un coup d'œil dans l'intérieur de la chambre. Cette chambre était vide. L'accusant franchit le seuil. L'ameublement de la pièce dans laquelle il se trouva avait été somptueux jadis. Mais le temps et le manque de soins s'étaient chargés de la dégradation complète de ces magnificences. Les tentures à personnages, qui recouvraient les murailles, pendaient çà et là comme des haillons que les pauvres accrochent à leurs fenêtres dans les quartiers populeux des grandes villes. Les vers avaient rongé jusqu'à la trame la laine aux splendides couleurs du tapis de haute lisse. La tapisserie au petit point des fauteuils avait subi le même sort et n'existait plus qu'à l'état de lambeaux. Le grand lit à colonnes torses et à baldaquin, portant à son couronnement l'écusson sculpté des Montaigu et des Vaudrey, était vermoulu et menaçait ruine. Les rideaux de l'ampa orientale qui l'enveloppaient autrefois étaient flétris et décolorés. Un reste de feu se consumait dans l'âtre. Près de la cheminée se voyaient un fauteuil et une table. Sur cette table, une petite lampe, dont le courant d'air faisait vaciller la lueur, éclairait une Bible tout ouverte. Cette Bible fut une révélation pour le capitaine. Églantine seule, parmi les hôtes du château de l'Aigle, avait pu demander, aux pages du Livre Saint entre tous les livres, la force et les consolations dont elle avait un si grand besoin. Presque en même temps d'ailleurs, une preuve matérielle vint s'adjoindre à cette présomption morale. Le capitaine aperçut sur le tapis un vêtement de gros drap dont il lui sembla reconnaître l'étoffe et la forme. Il releva ce vêtement. C'était son propre manteau dans lequel, on s'en souvient, il avait enveloppé Églantine au moment de l'incendie de la Poya. Il devenait impossible de douter. La jeune fille avait habité cette chambre. Sans doute elle venait de la quitter depuis un instant bien court, puisque ni le feu ni la lampe n'avaient eu le temps de s'éteindre. Mais où donc était-elle? Voilà ce que le capitaine ne pouvait deviner. Nous savons, nous, que la jeune fille se trouvait en ce moment auprès d'Antide de Montaigu, et nous avons assisté à leur entrevue dans le cours des chapitres précédents. Cependant, à coup sûr, il était sur la trace. Il marchait dans la bonne voie. Dieu, qui l'avait conduit jusque-là, ne l'abandonnerait point sans doute. Le capitaine se dit cela, et il poursuivit ses recherches. En face de la porte d'entrée se trouvait une autre porte, masquée jadis par la tapisserie, mais entièrement découverte depuis que la tenture tombait en lambeaux. L'accusant se dirigea vers cette porte qu'il ouvrit sans difficulté. Elle donnait accès dans cette longue enfilade de pièces qui occupait toute la longueur du logis des femmes. Le jeune homme, n'osant toucher à la lampe dont il eût été possible de remarquer le déplacement depuis le dehors, eut l'idée de prendre une branche enflammée dans le foyer et de s'en servir en guise de torche pour continuer son exploration. Déjà, il se dirigeait vers la cheminée, quand soudain il lui sembla entendre des pas sur la terrasse au bas de la fenêtre. Il s'arrêta pour écouter mieux et il acquit bien vite la certitude qu'il ne se trompait point. Les pas se rapprochaient. Quelqu'un s'engagea dans l'escalier. L'intérêt manifeste du capitaine était de pouvoir tout observer sans courir le risque d'être surpris. Il se jeta rapidement derrière le lit à colonnes et il s'enveloppa dans les plis des rideaux de façon à ce qu'il lui fût possible et facile de tout voir en restant lui-même invisible. À peine venait-il de disparaître dans cette cachette qu'il entendit la porte du bas de l'escalier se refermer et la lourde clé grincer à deux reprises dans la serrure massive. « Allons, murmura-t-il, le sort en est jeté. Me voici pris comme une belette dans un pigeonnier. Comment tout cela finira-t-il ? » Cependant, le bruit du pas léger d'une femme continuait dans l'escalier. Ce bruit se rapprochait de seconde en seconde. Le cœur de l'accusant battait violemment. Églantine entra dans la chambre. Le capitaine fut au moment de quitter sa cachette improvisée et de crier à la jeune fille en lui tendant les bras. « Me voici, ma sœur, me voici !» Mais une réflexion l'arrêta. Sans doute, dans la surprise du premier moment, Églantine ne serait point assez maîtresse d'elle-même pour contenir une exclamation de joie et d'émotion en voyant apparaître devant elle son ami, son défenseur. Or, le gardien ou le valet qui venait de la ramener à sa prison ne pouvait être assez loin déjà pour ne point entendre ce cri. Peut-être voudrait-il en connaître la cause. Il monterait pour s'en enquérir, et Églantine serait indubitablement trahie par un trouble qu'elle ne pourrait dominer. L'accusant se dit tout cela en beaucoup moins de temps que nous n'en avons mis à l'écrire, et il resta immobile et muet. La jeune fille avait le teint animé et les yeux brillants. Rien, ni dans son regard, ni dans sa démarche, n'annonçait la tristesse et le découragement. Elle s'avança jusqu'auprès de la petite table devant laquelle elle s'agenouilla. Puis, soulevant dans ses deux petites mains la grosse Bible, elle appuya ses lèvres sur les pages du livre sacré avec une ardente effusion. Dans ce baiser, il y avait tout à la fois une invocation et une action de grâce. Ensuite, elle se releva et, traversant rapidement la chambre, elle courut se mettre à la fenêtre, à cette même place où elle avait déjà passé bien des heures. Son regard s'efforça de percer les ténèbres. Son oreille se tint prête à recueillir le moindre souffle, le moindre bruit. C'est que, quelques heures auparavant, la voix connue de Garbas, disant les naïfs couplets de sa chanson bressane, était arrivée jusqu'à elle, perçant les murs de la prison comme un signal de délivrance, comme un chant d'espérance et de victoire. C'est que ces rimes rustiques et cette musique champêtre lui avaient dit en réalité tout autre chose que ce qu'elles signifiaient en apparence. C'est qu'au lieu des fades bucoliques roucoulées par un berger à sa bergère, elle avait entendu distinctement ces mots. « Vos amis savent où vous êtes, ils vous protègent, ils vous entourent, ils sont là, tout près de vous. Espérez donc et ne craignez plus. » La jeune fille aussitôt s'était sentie ranimée et consolée. Et depuis ce moment, elle avait attendu, bien certaine que son attente ne serait pas vaine. On se souvient de l'indicible épouvante qu'elle éprouva lorsque le seigneur de l'aigle parla de lui faire quitter le château cette nuit même. Il lui sembla qu'une seconde captivité, bien autrement terrible que la première, allait commencer pour elle. Car si elle s'éloignait, ses libérateurs perdraient peut-être sa trace, et qui sait si jamais ils la retrouveraient. Son courage, sa résistance opiniâtre à la volonté d'Antide de Montaigu, sa joie quand l'apparition de Maggie lui fit comprendre que pour cette nuit-là du moins, il serait impossible de l'éloigner, tout cela avait été l'œuvre de la ballade de Garbas. La voix était partie de la cour de la citerne. « Ils sont là, » s'était-elle dit. « Ils viendront à moi, puisque je ne puis aller à eux. » Et elle n'avait pas quitté la fenêtre, d'où la vue, quoique bornée du côté gauche par la tour de l'aiguille, plongeait cependant jusque sur la vallée d'Ilay. « C'est de là, sans doute, » avait-elle ajouté, « c'est de là que m'arrivera un nouveau signal. Je veux être prête à l'entendre. Je ne veux pas qu'on m'appelle en vain. » Le médecin des pauvres, deuxième partie, chapitre 10. Réunion. Ce signal de délivrance, cet appel si impatiemment désiré, se fit entendre. Mais il vint du côté absolument opposé à celui par lequel la jeune fille comptait l'entendre arriver. Dès que le valet qui venait de refermer la porte en dehors se fut éloigné suffisamment pour que sa présence ne fût plus un danger, le capitaine se dégagea à demi des rideaux dans lesquels il s'enveloppait, et il murmura d'une voix étouffée ce seul mot. « Églantine !» La jeune fille se retourna d'un mouvement brusque, et ses yeux, agrandis par l'étonnement, se fixèrent vers cette partie de la chambre où son nom venait d'être prononcé. Elle vit l'accusant, et son cœur bondit, et dans un élan de profonde et suprême reconnaissance, son âme tout entière s'éleva vers Dieu. À l'école du danger, on apprend vite la prudence. Églantine eut la force de rester muette. Elle appuya un doigt sur ses lèvres afin de commander le silence au capitaine, et au lieu de s'élancer à l'instant vers lui, elle reprit sa place à la fenêtre et elle se pencha au dehors, afin de bien s'assurer que les pas du valet avaient cessé de se faire entendre. Lorsqu'elle eut acquis cette certitude, elle referma la fenêtre, puis cédant enfin à l'impulsion jusque-là contenue de son cœur, elle se jeta dans les bras du capitaine, et elle appuya sa tête sur la poitrine du jeune homme, en balbutiant « Te voilà donc ! Te voilà donc enfin, mon frère, mon ami, mon sauveur !» Au contact de la charmante tête et des longs et soyeux cheveux de cette belle jeune fille, que si peu de jours auparavant, il aimait d'un amour d'amant bien plus que d'une tendresse de frère, l'accusant sentit son cœur s'arrêter, et qu'un étrange frisson tout à la fois glacé et brûlant passait dans ses veines avec son sang. Mais nous savons déjà que la volonté de l'accusant était d'acier, comme ses nerfs et comme ses muscles. Il commanda à son cœur de recommencer ses battements. Il commanda au feu de s'éteindre et à la glace de fondre. Le cœur et le sang obéirent, la tête et les sens se calmèrent, et le capitaine ne vit plus dans Églantine que la fiancée de Raoul de Champdivers. « Oui, cher enfant, répondit-il d'une voix dont le tremblement léger était à peine perceptible. « Oui, ton ami. Oui, ton frère. Mais pas encore ton sauveur. Avant de mériter et d'accepter ce titre, il faut d'abord sortir avec toi du château de l'Aigle.
Eh bien, nous en sortirons. »
« Par Dieu, je l'espère, j'y compte. J'y suis bien entré. Or, qui peut entrer peut sortir. Cela est logique. J'avoue cependant que la chose ne me semble pas précisément facile. »
« Ah !»
s'écria Églantine avec exaltation.
« Tout est facile pour le capitaine Lacuzon, même l'impossible. »
Lacuzon se mit à rire. « Tu répètes tout ce que le monde dit, cher enfant, » fit-il ensuite.
« Et tout le monde a raison de le dire, puisque c'est vrai. » interrompit la jeune fille.
J'espère que les événements de cette nuit ne viendront pas donner un démenti à cette croyance si généralement acceptée, et qui fait de moi quelque chose d'à peu près pareil au héros des romans de chevalerie. J'espère qu'il ne me faudra point échouer pour la première fois de ma vie en tentant l'entreprise que j'ai le plus ardemment désiré mener à bonne fin, depuis que le montagnard Jean-Claude Prost est devenu le capitaine Lacuzon.
Va, sois tranquille, je te réponds du succès. Dieu est pour nous. J'en ai déjà eu une preuve ce soir. J'en aurai encore. J'en aurai d'autres. »
Le capitaine sourit de nouveau de cette confiance si complète et si exaltée d'Églantine. Puis il dit « Maintenant, cher enfant, dis-moi bien vite ce qui s'est passé depuis le moment où tu as été enlevé, jusqu'à celui où je te retrouve ici. »
« D'abord, murmura Églantine en baissant les yeux, parle-moi de mon père. Parle-moi de Raoul.
« Ton père est sauvé, » répondit Lacuzon en évitant par un pieux mensonge de rendre plus triste encore la situation de la jeune fille.
« Raoul est au trou des Gangones, auprès de Varros et de Marquis.
Dieu l'a préservé presque miraculeusement d'un grand péril. »
« Que Dieu soit béni. Tu vois combien j'ai raison de croire que sa protection nous entoure. »
« Mais toi, toi !»«
Moi, j'ai bien peu de choses à te raconter. »
J'ai perdu connaissance au milieu de l'incendie.
C'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas?
Oui. Mais Raoul voulait se jeter au milieu des flammes, et pour l'en empêcher, il m'a fallu le faire contenir de vive force par Garbas et Pieds de Fer.
Je vous unis dans ma reconnaissance et dans ma tendresse, dit Églantine en serrant la main de Lacuzon.
Quand j'ai repris connaissance, continua-t-elle,
bien des heures s'étaient écoulées sans doute.
Il faisait nuit.
Un inconnu m'avait attaché sur la croupe de son cheval, et nous courions à une vitesse qui me parut prodigieuse. Je voulais crier, je voulus appeler à mon aide. L'homme qui m'enlevait se tourna vers moi et me dit « Si vous appelez, si vous criez, je vous tue. » À la manière dont ces mots furent prononcés, je sentis bien que l'inconnu le ferait comme il le disait. Je ne voulais pas mourir, j'espérais en Dieu et j'espérais en toi. Je gardais le silence.
Nous arrivâmes au château de l'Aigle, et alors je compris que j'étais prisonnière d'Antide de Montaigu, à qui mon ravisseur venait de me livrer.
« Prisonnière d'Antide de Montaigu ? » répéta le capitaine. « Ainsi, c'est donc bien vrai. Le seigneur de l'Aigle est un traître ?»«
Un traître bien lâche et bien misérable, qui se vante tout haut de ton étrange aveuglement. » « Que veut-il donc, cet homme ? Quel prix infâme espère-t-il retirer de sa trahison ?» Louis XIII et Richelieu, sans doute, lui achètent la Franche-Comté. Mais depuis quand voit-on les fils vendre et livrer leur mère? Ah, c'est un terrible compte à régler entre nous, seigneur de l'Aigle. Un compte qui se soldera avec du sang. Puis après un instant de silence indigné, Lacuzon reprit. Mais ceci viendra en son temps. Maintenant, il faut fuir.
Oui, il faut fuir, répéta Églantine. Mais comment?
Nous sommes enfermés dans ce bâtiment. Et fussions-nous sur l'esplanade, nous trouverions les portes closes, et les ponts-levis ne s'abaisseraient pas pour nous. Ah, je sais que notre entreprise est difficile et dangereuse. Cependant, j'ai un projet.
Lequel?
À l'extrémité du chemin de ronde, du côté de la route de Lons-le-Saunier à Morez, la muraille n'est pas extrêmement élevée. Elle s'assied sur un rocher qui forme à sa base une étroite plateforme. Une fois sur cette plateforme, le plus fort est fait. Car le rocher n'est point à pic depuis le pied du mur jusqu'à la vallée. Et d'ailleurs, il offre des anfractuosités qui peuvent en quelque sorte remplacer une échelle.
Oui, mais de quelle façon descendre jusqu'à la plateforme dont tu parles?
Le cas est prévu, regarde.
Le capitaine ouvrit son pourpoint et montra à la jeune fille une corde longue et mince, roulée autour de son corps. « Tu vois, lui dit-il, que ce qui te préoccupe n'est qu'un jeu d'enfant. Cette corde, attachée à un créneau, deviendra, grâce à quelques nœuds, le plus commode des escaliers. Ceci n'est rien, mais autre chose me préoccupe. Quoi donc ? Cette lumière inquiétante qui brille dans les appartements du Seigneur de l'Aigle. Que peut faire à cette heure antique de Montaigu ? J'étais auprès de lui au moment où tu es entré dans cette pièce. Il m'avait envoyé chercher pour m'annoncer que j'allais quitter immédiatement le château et qu'à l'avenir le comte de Guébriant serait chargé de ma garde. C'est même dans cette circonstance, ainsi que je te le disais tout à l'heure, que la protection de Dieu est devenue visible pour moi. Quelle a donc été la cause du changement de résolution d'Antide de Montaigu ? L'homme qui l'attendait et qui devait m'emmener avec lui a été tué il y a quelques heures. Sais-tu le nom de cet homme ?
Oui, il s'appelait Brunet.
Brunet ? Le capitaine des Grilles du Bugey ?
Lui-même.
Il a été tué, dis-tu ?
Il y a quelques heures, je te le répète, dans le bois de Charrézier.
Par qui la nouvelle de cette mort a-t-elle été apportée au château de l'Aigle ?
Par une vieille femme qui se dit sorcière, et que Brunet, mourant, envoyait à sa place au seigneur de l'Aigle.
Une vieille femme qui se dit sorcière ? S'écria l'accusant avec étonnement. Sais-tu comment s'appelle cette femme ?
Maggie, je crois.
Ah, vive Dieu ! Voilà qui est étrange et presque surnaturel.
En quoi donc ?
J'ai laissé Maggie la sorcière attendre mon retour au trou des Gangones.
Et moi, je t'affirme qu'elle est en ce moment auprès d'Antide de Montaigu.
Que vient-elle faire au château de l'Aigle ? Veut-elle nous servir ou nous perdre ?
J'ai cru d'abord qu'elle était à la solde du seigneur de l'Aigle. Mais j'ai vu bien vite qu'il ne la connaissait même pas. Aussi longtemps que nous nous sommes trouvés en face l'une de l'autre, elle n'a cessé de me regarder avec persistance et d'une façon étrange.
Me connaît-elle donc ?
Oui, certes, Maggie te connaît. C'est elle qui m'a envoyée ici.
Elle ? Répéta Églantine de l'air d'une profonde stupeur.
Et je ne puis croire qu'elle veuille nous trahir, poursuivit le capitaine, car son dévouement pour nous me semble absolu. Déjà, elle nous a rendu de grands services.
C'est elle qui a amené Raoul au trou des Gangones, après lui avoir sauvé la vie.
Il avait été blessé en te défendant, et sans les soins de Maggie, il serait mort peut-être, sans parvenir à nous rejoindre.
Comment ? S'écria Églantine avec une joyeuse expansion. Elle a sauvé Raoul ? La chère femme, la digne femme, l'excellente femme. Je ne m'étonne plus du secret instinct qui, dès le premier moment où je l'ai vue, me disait d'avoir confiance en elle. J'avais, sans le savoir, la reconnaissance du service rendu.
Mais tout à l'heure, tu paraissais douter.
Comment ? Elle a sauvé Raoul et tu doutes ?
Ah, c'est bien mal !
Tu as raison, répondit le capitaine. Moi aussi, maintenant, je suis comme toi. J'ai pleine et entière confiance en Maggie. Elle m'a envoyée ici. Elle a voulu s'y trouver elle-même pour me venir en aide et compléter son œuvre. Les choses qui me semblent étranges et inexplicables dans sa conduite me seront sans doute expliquées plus tard. Sans doute un jour elle me donnera la clé du mystère dont elle s'entoure.
Ah ! Murmura la jeune fille en employant les notes les plus sourdes de sa voix et en se rapprochant du capitaine. Ce n'est pas dans ce château qu'il faut parler de mystère.
Pourquoi donc ?
Parce qu'il en est plein. Comme ces vieux manoirs enchantés dont on raconte aux veillées d'armes de si fantastiques légendes.
Que veux-tu dire ?
J'ai passé ici un jour et une nuit seulement, et dans cet espace si court, j'ai vu et entendu des choses étranges.
Quelles sont ces choses, mon enfant ?
Le jour, de vagues plaintes, de déchirantes lamentations semblent sortir des entrailles de la terre. Le soir, une voix plaintive et triste murmure dans la tour de l'aiguille une ballade doucereuse. La nuit, un fantôme pâle et vêtu de blanc paraît sur la plateforme de cette tour.
Un fantôme ?
Oui.
Tu l'as vu ?
Oui. Un peu après le moment où la chanson de Garbas est venue jusqu'à moi, ce fantôme s'est promené lentement, pendant plus d'une heure, sous les grands arbres de la terrasse. Parfois, il s'arrêtait devant la grille et on eût dit qu'il cherchait à l'ébranler. Puis il reprenait sa marche, lente et solitaire.
Ainsi, murmura l'accusant, ainsi donc ce n'est pas un conte, et la rumeur populaire, une fois par hasard, a dit vrai. Le fantôme de la tour de l'aiguille existe. C'est une femme, je n'en puis douter, une femme qui vit et qui souffre. Et les sourds gémissements qui montent des profondeurs de la terre révèlent d'autres souffrances et d'autres crimes. Après avoir gardé le silence pendant quelques instants, le capitaine ajouta avec véhémence. « Ah, comte de Montaigu, seigneur de l'aigle, noble bandit, un jour arrivera, et ce jour n'est pas loin peut-être, où je reviendrai dans ton château. J'y reviendrai une épée d'une main, une torche de l'autre, et il faudra bien alors que tes cachots disent tous leurs secrets. Il faudra bien que la lumière se fasse parmi tous tes sombres mystères. » « Oui, reprit-il après un nouveau silence, l'heure de la vengeance sonnera. Mais cette heure n'est pas venue. En ce moment, il faut songer à sortir d'ici. Je te descendrai bien par la fenêtre avec ma corde, mais il existe, je crois, une issue plus facile. As-tu visité toutes les pièces de ce corps de logis ?
Non, je n'ai pas osé. Je ne suis pas sortie de cette chambre.
Eh bien, nous allons voir ensemble si nous trouverons ce que je cherche. » Le capitaine prit la lampe sur la petite table, il ouvrit la porte dont nous avons déjà parlé, et il traversa, suivi d'Églantine, une longue enfilade de pièces absolument délabrées. Dans la dernière de ces pièces, une porte s'ouvrait sur un escalier pratiqué dans la muraille. « Voilà sans doute, » pensa le capitaine en mettant le pied sur la première marche, « voilà l'escalier qui conduit à la cour de la citerne. » Il ne se trompait pas. Après avoir descendu un grand nombre de degrés, car la cour se trouvait beaucoup plus bas que le niveau de la terrasse, le capitaine et la jeune fille arrivèrent en face de cette porte vermoulue, vainement attaquée de l'autre côté. Il n'y avait ni clé, ni serrure, mais un ressort, et outre ce ressort, deux verrous massifs mordant profondément la pierre. L'accusant tira les verrous. « Éteignons la lampe, dont la lueur pourrait nous trahir, » dit-il alors à Églantine. « Ensuite, je ferai jouer le ressort. » La jeune fille souffla sur la mèche fumante. Le capitaine appuya sur l'acier rouillé. On entendit un craquement. La porte s'ouvrit. L'accusant passa la tête par l'entrebâillement. Il regarda et il écouta avant de s'aventurer dans la cour. Elle était silencieuse et semblait déserte. Seulement, la lumière brillait toujours derrière les vitres de l'appartement du seigneur de l'aigle. « Viens, mon enfant, » dit le capitaine à Églantine en se glissant dans la cour. « Suis-moi, et surtout pas de bruit. Que nos pas s'étouffent sur le sol. Marchons comme si nous étions des ombres. Une imprudence peut nous perdre. » La jeune fille sortit. À peine venait-elle de franchir le seuil, que le vent, toujours vif la nuit, sur ses hauteurs, s'engouffra dans l'escalier et referma bruyamment la porte. « Maladroit que je suis !» balbutia l'accusant. « J'aurais dû penser à cela et briser le ressort. En cas d'alarme et d'attaque, nous n'avons plus d'asile. Voilà notre retraite coupée. Maladroit, maladroit !» L'irritation ne remédiait à rien. L'accusant finit par prendre son parti du fait accompli, et il ajouta « Après tout, c'est Dieu qui l'a voulu. Nos vaisseaux sont brûlés. La nécessité est la mère de l'audace heureuse. Viens !» Il saisit la main d'Églantine, il l'entraîna avec des précautions infinies jusqu'à l'entrée de la voûte qui conduisait au chemin de ronde. Là, il s'arrêta. « Il faut tout prévoir, » dit-il en commençant à dérouler la corde mince dont il s'était faite une sorte de cuirasse en la passant autour de son corps, depuis les hanches juste sous les bras. « Nous ne rencontrerons pas de sentinelle dans le chemin de ronde, mais il n'est point impossible que nous en trouvions une sur la muraille, précisément à l'endroit que j'ai choisi pour repérer notre descente. Dans ce cas, il me faudra jouer du poignard. Si la sentinelle appelle à l'aide, nous serons enveloppés. Je vais t'attacher la corde à la ceinture afin de te descendre à la première alarme. Je me défendrai ensuite et je te rejoindrai le plus tôt possible. » Un bruit soudain et inattendu vint couper la parole à l'accusant et le faire tressaillir. Le son d'un corps retentissait à la porte principale du château.